Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie, je crois! Ça, c'est magique, ça, moi!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Zéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Inde, dans une ville vraiment particulière. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est une ville qui est comme aucune autre dans le monde. Ça s'appelle Auroville. Et aujourd'hui, je suis avec Laure qui vit depuis 3 ans. Elle va nous en parler de son expérience et je suis vraiment très très content de la recevoir parce que j'ai plein de mystères qui tournent autour de cette ville dont j'ai entendu vaguement de loin et j'ai enfin quelqu'un qui vit, qui va pouvoir tout me raconter et vous raconter. Laure, comment ça va?
Ça va super.
Écoute, je suis vraiment ravie.
Je suis contente d'être là.
Et je suis ravie parce que, en fait, j'ai un petit peu l'impression que tu vas nous raconter, tu sais, c'est un peu comme. J'ai habité à l'Eldorado, ou tu sais, la cité de Shambhala, c'est une espèce de ville un peu mythique, mystique, dont on a toujours un peu entendu parler, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe, ce qui s'y fait. Alors, déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous expliques ton expérience, qu'est-ce que c'est en gros, en une phrase, Auroville, pour que les gens comprennent, ceux qui n'ont jamais entendu parler, et c'est où exactement en Inde?
Ouais. Alors, Auroville, ça se situe dans le sud-est de l'Inde, dans un état qui s'appelle le Tamil Nadu. C'est une ville qui a été créée de toutes pièces en 1968.
Ah, c'est récent.
Par, ouais, ça, on a fêté le 50e anniversaire il y a 2 ans. Donc c'est très récent. Donc voilà, 68, ça a été créé par la mère, qui est un maître spirituel, sur base des écrits et de la philosophie de Sri Aurobindo, qui est un autre maître spirituel qui était lui indien, qui était élevé en Europe.
Okay.
Et la mère, donc, qui s'appelait à la base Mira Alfasa, elle est française. Et
en
donc
plus.
En fait, ils se sont... Ouais. J'en reparlerai après, de toute l'influence française, tu vois, à Auroville et dans ce coin, Pondichéry, tout ça, qui est assez cool quand on est français à l'étranger.
Ouais.
Et donc voilà, donc ils se sont retrouvés ici, en fait, à Pondichéry, et ils ont donc créé Auroville en 1968. Donc actuellement, donc ça existe depuis 52 ans, il y a à peu près 3000 habitants.
Ah quand même.
De 50, ouais. Mais c'est pas tant au final vu que l'ambition c'était quand même 50 000.
Ah parce qu'il y avait une ambition, voilà. Justement, c'était quoi l'ambition derrière? Parce que quand tu dis que c'est deux maîtres spirituels, j'imagine qu'il y avait une vraie envie de créer une communauté avec une mentalité, des règles différentes du reste de l'Inde du coup, et peut-être du monde.
Oui, alors déjà, Auroville n'appartient à personne.
D'accord.
Ça, c'est.
Est-ce que c'est,
le premier...
est-ce que c'est indépendant? Genre, l'Inde, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que le gouvernement de l'Inde, ils mettent le nez dedans? Ou au contraire, ils ont accepté que c'était une espèce de. C'était le Vatican du coin? Ou comment ça se passe? Ou non, en fait, ça appartient à l'Inde, point barre.
Non, ça appartient à l'Inde. C'est sous tutelle, on peut dire, du gouvernement.
Okay.
Ça a été soutenu par l'UNESCO.
Ah ok, quand même.
Mais c'est pas un endroit indépendant. On est régi par les règles de l'Inde quand même.
D'accord.
Mais c'est quand même un endroit à part, ouais. Parce que
là, attends, là tu fais monter la sauce. Ok, il y a deux maîtres spirituels. Les mecs se sont tapés un kiff, ils se sont dit c'est en 68. Viens, on crée une ville trop stylée où il y a des valeurs où en gros, faites l'amour, pas la guerre. Je résume bien vulgairement, évidemment.
Ouais.
Vous êtes 3000 aujourd'hui. Enfin, j'imagine que ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. C'était quoi vraiment le but premier, l'objectif premier de cette ville qui, Et c'est rare, hein, les communautés un peu spirituelles qui ont duré dans le temps et qui ont été pérennisées. C'est vraiment super rare. Mais c'était quoi vraiment la guideline derrière?
Alors, en fait, l'idée d'Euroville, c'était de réaliser l'unité humaine à travers la diversité.
OK.
À travers la diversité mondiale, en fait, internationale. Donc, l'idée, c'est d'avoir des gens du monde entier qui vivent ici et qui essayent de réaliser ce projet d'harmonie entre peu importe les religions, peu importe ton background, tu vois, ton...
Ah, en fait, tu peux venir et habiter et même pratiquer une autre religion à Euroville, c'est ça?
En fait, non.
Non, on n'aime pas du tout les animistes et les orthodoxes, voilà, c'est que ça tombe sur eux.
Non, l'idée, en fait, c'est que ce soit un lieu sans convention sociale, sans religion, et que ce soit un endroit, en fait, libre, qui n'appartienne à personne, et qui n'appartienne à aucune...
aucun parti social, aucun parti politique. Donc ça veut dire que si t'arrives et que t'es un chrétien pratiquant, fait, tu peux être chrétien pratiquant, mais tu vas vraiment le garder chez toi, et ce qui va compter, c'est que dans la ville, donc dans le domaine public... tu t'appliques à créer l'harmonie sans essayer de ramener quelque chose à toi ou à tes croyances, c'est un peu ça.
Ouais. Oui, c'est ça.
Mais au final, c'est quoi la différence finalement avec une ville normale, tu vois, parce que je vais prendre, je fais un peu le mec candide, mais en France, dans l'idée, on est là pour tolérer un peu, alors dans l'idée, on est d'accord, hein, mais t'es là quand même pour tolérer tout le monde, toutes les religions, toutes les couleurs, tous les sexes, ceux qui sont même entre deux sexes, tu vois, c'est... C'est quoi la différence finalement avec ça?
Alors la différence, c'est que Euroville, déjà, c'est un endroit qui a été créé de toutes pièces, basé sur une philosophie qui s'appelle le yoga intégral, qui a été créé donc par Sri Aurobindo et imaginé par Sri Aurobindo. Okay. En gros, cet endroit est basé sur la spiritualité. Alors que toute autre société n'est pas du tout basée sur la spiritualité. C'est basé sur ce que tu veux, l'économie en général, et l'argent, le PIB, enfin tu vois, l'économie quoi. Et c'est ça qui différencie grandement cet endroit de n'importe quel autre endroit du monde et qui fait qu'il est unique.
Et comment ça se, dans les faits, ça se concrétise? C'est-à-dire que, pour reprendre ta comparaison de... Bah, la plupart des lieux, ils sont régis par exemple par l'économie, ou ça peut être la religion, ou en tout cas reprenons l'économie. Du coup, il faut créer des jobs, il faut créer des impôts, il faut créer tout ça. Si c'est basé sur la spiritualité, donc une ville encore une fois qui tourne, hein, c'est pas juste 2-3 mecs qui se baladent avec un tipi. C'est quoi c'est quoi les règles, comment ça se passe dans les faits?
Dans les faits, en fait, voilà. Dans les faits, Euroville, donc, c'est la plus grande communauté du monde. Donc, on peut parler de communauté, mais on peut aussi parler de ville, si on veut, parce qu'en fait, on est une ville quand même éparpillée sur 20 km². Et là, en soi, la vie ici, au niveau du quotidien, tu vois, de la routine, dans une certaine mesure, est comme n'importe quel autre endroit du monde. C'est-à-dire que tout le monde travaille. Ça, c'est un des musts à Euroville, c'est qu'il faut travailler.
D'accord.
Parce qu'en fait, donc, ce qu'on fait à Euroville, c'est un yoga du travail.
Oh, là, ok, on commence à attaquer du concept qui commence à m'intéresser. Parce que putain, là, on tourne autour du pot, là, je dis, vas-y, qu'est-ce qu'on fait, merde, tu vois? J'ai envie de savoir. Je me suis dit, ils font que du yoga, mais ça fait pas pousser le blé, tu vois?
Et non.
Ou les patates.
Oui. Alors, je t'explique. En gros, donc, pour poser les bases, le yoga... Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ce n'est pas juste des postures. Okay. Le yoga, c'est une philosophie.
Okay.
Voilà. Et ça inclut une philosophie de vie envers... Donc, un code de conduite où tu vois une certaine philosophie pour se traiter soi-même, une certaine philosophie pour traiter les autres. Et tout un tas d'autres pratiques spirituelles.
D'accord.
Pour la faire simple, tu vois.
D'accord.
Et en fait, En Inde, normalement, quand on s'intéresse à la spiritualité, on va dans un ashram. Un ashram, c'est comme si tu étais, admettons, catholique ou chrétien, et tu vas dans un monastère, admettons, pour apprendre sur la religion catholique.
Ah, je vois. Ok, ouais.
Sauf que tout ce qui est spirituel ou dit spirituel, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de laïque. C'est un peu lié à des dieux aussi, mais c'est une philosophie plus laïque, tu vois.
C'est-à-dire que pour toi, la spiritualité, c'est comme les religions, mais quand t'enlèves les dogmes. C'est quand tu gardes juste le principe de je me sens connecté à quelque chose, je sens qu'il y a des lois qui doivent être suprêmes, entre guillemets, qui doivent régir un peu mon comportement, l'univers, les lois de l'univers, mais j'y mets pas un livre ou une catégorie, etc. C'est un peu ça pour toi, la spiritualité.
C'est ça. Pour moi, c'est ça, ouais.
Ok.
Et donc, en fait, donc voilà, en fait, donc il existait l'ashram de Sri Aurobindo au début du siècle dernier, qui existe toujours d'ailleurs, à Pondichéry. Donc, Pondichéry, c'est la première ville à côté d'Auroville. C'est à 10 km.
Ok.
Et donc, du coup, Sri Aurobindo donc, était dans sa quête spirituelle, sa recherche spirituelle, etc. Et se disait, bon, un ashram et des gens qui viennent en ashram où ils sont nourris, logés. Donc, en gros, tout ce à quoi ils ont besoin de penser, c'est eux, leur spiritualité, leur développement personnel, etc.
Ouais.
Limite, ils travaillent un petit peu aussi. Mais bref, il y a beaucoup de contraintes psychologiques et de pression quotidienne, on va dire, psychologique, qui sont pas là.
Ah, tu veux dire que c'est pas... Je vois ce que tu veux dire, c'est que tu travailles ta philosophie, ta spiritualité, mais dans un contexte un peu à part, qui n'est pas celui de la vie de tous les jours, ce qui fait que quand tu retournes dans la vie de tous les jours, tu as de grands risques de perdre ta spiritualité parce que tu n'étais pas soumis au même contexte.
C'est ça. En fait, c'est un endroit où tout est fait pour que tu puisses apprendre tranquillement, en gros, tu vois.
Ouais.
Et donc, au bout d'un moment, il s'est dit « Ah, mais en fait, le yoga, donc quand on va dans un ashram, on pratique le yoga au sens large.
Ouais. »
Et donc, l'idée était de créer une ville où on mettrait en pratique le yoga ou son yoga aussi. Parce que tu vois, tu as plusieurs philosophies, quoi.
Non, il y a plusieurs écoles.
Tu as plusieurs écoles Sri Aurobindo, puis après, tu as tout un tas de maîtres spirituels en Inde et tout. Ouais. Donc, lui, son idée, c'était d'appliquer sa philosophie spirituelle, mais dans le contexte d'une ville qui serait créée.
Ah, c'est en fait, c'est le ashram 2.0, quoi. C'est-à-dire que, ok, les gars, jusque-là, c'était un peu facile, hein. On faisait à bouffer, tu n'avais plus qu'à rester. Assis et puis faire, enfin pas assis, mais faire justement toutes les pratiques du yoga spirituel, physique, etc. Mais bon, t'es mignon, mais à chaque fois que tu retournes en ville, tu refais des conneries et tu repères un peu tout ça parce que finalement, bah, tu retournes dans la vie de tous les jours. On va te mettre dans un autre contexte qui va être plus réel, plus proche du quotidien et qui va t'aider à vraiment pratiquer le yoga, mais dans un contexte que la plupart des gens connaissent mieux, c'est-à-dire celui du métro, boulot, dodo, enfin, je prends du travail, de tout ça, mais et de garder l'intégration de cette spiritualité. Donc c'est un peu ça a été basé là-dessus.
Ouais.
Et ok, c'est-à-dire quand tu te lèves le matin, ça change quoi? C'est quoi la différence?
Ben, ça veut dire déjà en Inde, on se lève tôt.
Ouais, ça, ouais.
C'est culturel.
Ouais,
donc ça veut dire, c'est ça. Entre la plupart des gens. Ils doivent se lever entre 4h et 6h30.
Ah ouais. Ouais, 6h30, t'es un lève-tard déjà, c'est ça?
Ouais, c'est clair. 6h30, on vient
6h30,
voir.
6h30, grâce pas, dis donc, Laure, là, hein, franchement.
Ouais, mais en fait, c'est aussi parce que les 2 heures avant le lever du soleil sont hautement chargées en énergie spirituelle.
Ah, ok, d'accord.
Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que les gens vont au temple, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font tôt ici. Par exemple aussi, les chrétiens, les catholiques, ici, ils vont à l'église à 7h du matin.
C'est ça qu'il
faut. Un dimanche.
Ah, mais donc il y a quand même des religions qui se pratiquent, autres que celui de la spiritualité et de l'école de la mère. C'est ça?
Non, mais ça, je parle hors contexte d'Auroville, pardon.
Ah, pardon.
J'aurais dû spécifier. Sorti... Je parle en Inde, tu vois.
Ah, ok, d'accord.
Enfin bref, mais pour revenir quand même du coup qu'à Auroville, les gens se lèvent tôt et du coup font leur pratique spirituelle le matin. Donc ça veut dire de la méditation ou du yoga ou même les deux, où ils vont se balader dans la forêt parce que Auroville donc a été créé à partir d'un désert. Et les premiers Auroviliens qui sont venus en 68 ont tout planté.
Ah ouais, et aujourd'hui,
c'est parce que maintenant, c'est une forêt.
Ah vraiment? Sans déconner?
Ouais, c'est une énorme forêt.
Ah, c'est
avec
génial.
Plein de petites baraques et quelques bâtiments dedans.
T'es en train de dire que c'est bien les mecs qui sont allés au contre-pied de la plupart de ce qui se passe sur la planète, quoi. Au lieu de déforester, ils ont reforesté.
Ouais. Ils ont reforesté. À partir d'un désert, dis-toi. Donc, challenge incroyable.
Et ça a été pas mal de, j'imagine, de voies d'irrigation, d'un process de création de micro, de microcosmes, en fait, qui permettent de recréer de l'humidité qui, derrière, va régénérer derrière de l'expansion de Ah ouais, il y a du taf un peu.
Ouais, parce qu'en fait, comme tu disais, il y a les moussons. Et en fait, ils ont dû apprendre à capter l'eau pendant les moussons pour l'optimiser, pour planter plein d'arbres et tout. Et donc, du coup, voilà, les premières années, ils ont fait que planter des arbres. Et moi, à chaque fois que je traverse Auroville, je me dis, c'est quand même ouf que tous ces arbres, ça a été planté par les pionniers, quoi.
Ouais, et qu'en fait,
il n'y a pas un arbre qui était là avant.
Ah ouais, mais c'était un désert. Les mecs, ils ont changé le climat, en fait, carrément.
C'était un énorme désert de sable.
En plus.
Rouge. La terre est rouge ici.
Ah, en plus, c'était pas forcément une terre super fertile, en plus.
Non, pas
donc,
du tout.
Double difficulté.
Vraiment, c'était des conditions hyper hostiles à la vie humaine. En plus, il fait méga chaud en mai-juin ici, donc ça veut dire 40 et plus.
D'accord.
Et donc, du coup, tu vois, au début, ils avaient pas d'ombre. Donc, il s'est dit, ah ouais, donc là, première...
En fait, le mec s'en foutait de la forêt. Il voulait juste un parasol à la base. Puis, j'ai dit, c'est quoi, planter un arbre, on en aura plein après. Non mais ok, ouais. Compliqué parce que les gars pouvaient pas aller chez Jardiland acheter un petit peu de terreau, il a fallu tout faire, il a tout faire de A à Z, il avait créé aussi cet humus qui fait que tu puisses planter.
Ouais.
Mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est, et après on va rentrer dans ton expérience à toi, mais il y a quand même de l'argent qui s'échange à Auroville, ça veut dire que quand tu arrives ici, quand tu dis que tu dois travailler, c'est-à-dire que j'imagine que des fois tu participes peut-être que bénévolement, peut-être en échange du couvert, du logis, ou c'est que finalement une économie mais qui est basée sur comment tu apportes de la spiritualité dans ta vie. C'est quoi comment le fonctionnement pur?
Alors, la première année, quand tu viens à Auroville, en fait il y a des statues à Auroville. Donc ça s'est fait au fur et à mesure du temps.
Ouais.
Donc actuellement, il y a des statues. Donc ton premier statut, enfin quand
non,
tu visites juste.
Ne me dis pas que si les gars ils sont en train de recréer des castes là comme en Inde.
Non, mais c'est pour organiser ton intégration.
D'accord.
Dans la ville en fait, parce que alors en fait au tout début d'Auroville, les mecs ils arrivaient, ils rencontraient mère et mère leur disait oui tu rejoins la communauté ou non. Ou la ville, comme tu veux.
Ah, il pouvait se faire éjecter. S'il est passé un mauvais entretien, le casting, fais à toi, je te sens pas, laisse tomber.
C'est ça, elle le faisait au feeling. Et donc, si elle le sentait pas, elle te disait non, t'as pas trop ta place ici. Ou, enfin, bref, je connais pas de cas de rejet, je connais que des cas successful. Mais donc voilà, et en fait, donc, toi, si tu viens visiter Auroville demain, tu seras un guest, tu seras un touriste.
D'accord.
Donc ça, c'est un statut. Un autre statut, c'est un volontaire. Donc avant d'intégrer Auroville, il faut avoir fait au moins 6 mois de volontariat.
Ah, d'accord. Pour montrer aussi ton envie vraiment de t'intégrer et de donner de ta personne. D'accord.
Et de découvrir le fonctionnement, etc. Et en fait, à partir de au moins 6 mois ou plus, si tu veux, tu peux devenir newcomer. Moi, c'est mon statut actuellement, qui dure 1 an.
Ouais.
Et donc pendant une année, tu dois rester ici parce qu'en fait, il y a la moitié de la communauté et de l'étranger, l'autre moitié est indienne.
D'accord.
Et les étrangers, ils font beaucoup de va-et-vient parce qu'ils ont, enfin pas beaucoup, mais tu vois, les outsiders, les étrangers, vont et viennent parfois parce qu'ils ont leur famille à l'étranger, etc. Ou ils ont des trucs à faire, enfin voilà.
Ouais, les courses,
et... Ouais, les courses. Aller chercher l'huile d'olive, par exemple.
Ça, voilà, ça c'est chiant déjà, faut y aller. T'es de corvée d'huile d'olive, voilà, faut sortir.
Et donc, quand t'es newcomer, tu dois rester toute une année à Auroville.
Sans sortir.
Sans partir. Voilà. Okay. Donc moi, je suis là-dedans. Bon, après, si tu pars moins d'un mois, il y a, prescription.
Okay.
Mais voilà. Mais, puis là, en ce moment, avec le corona, il y a méga prescription. Il n'y a plus de règles.
Ouais, j'imagine. Mais en gros, quelles sont les missions de... On va arriver sur le premier statut, un peu beginners, quand tu arrives, bénévolat, volunteer.
Ouais.
Ouais. C'est quoi les missions qu'on te propose pour justement pouvoir observer pendant 6 mois le fonctionnement d'Auroville?
Tu peux faire ce que tu veux. En fait, imagine-toi, on est 3000 dans une ville.
Ouais.
Donc, tu t'imagines bien qu'il y a plein de compétences qui manquent pour faire tourner le truc.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup avoir des gens qui viennent, ne serait-ce que pour un certain temps, parce que on a toujours besoin de gens, de jeunes et de compétences, bref, de ressources humaines, disons, ou d'humains, quoi.
Mais on est d'accord que les bénévoles, au moins, ils peuvent être logés et nourris.
Alors, non. Enfin, souvent, non. En tout cas, moi, je vais te parler de mon expérience.
Ouais.
Ça dépend. Donc, ça
dépend.
Parfois,
tu sais que là,
parfois,
d'un regard
non.
extérieur, on a l'impression que c'est un peu le bordel quand même à Auroville, là. Et si je viens et je te dis, tu sais quoi, une ville basée sur la spiritualité et les valeurs humaines et surtout prendre soin de soi et de son esprit avant de son portefeuille et de son apparence, ça me botte.
Mm.
Je suis chaud, ouais. Je viens donner de mon temps et de mon ouais. énergie pendant 6 mois.
Mm.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je m'y prends?
Alors, du coup, tu dois trouver un endroit où tu peux faire du volontariat. Et donc, il y a plein d'endroits. Et alors, soit tu passes par le service des volontaires qui va te proposer.
Ok.
Donc, tu peux aller travailler dans les fermes. Tu peux aller travailler... Ça peut être aussi des boulots de bureau.
Okay.
En ce moment, je sais qu'à auroville.com, ils cherchent des mecs qui veulent bosser dans le web pour faire du marketing.
Okay.
Ça peut être pour des services d'art, dans une galerie d'art, admettons. Ça peut être dans la construction, l'architecture. C'est comme une ville normale ici au niveau du travail.
Ouais.
Donc, il y a tout un tas d'opportunités comme dans la vie normale okay. ici au niveau du volontariat.
Et de quelle façon derrière, si tu, par exemple, je sais pas, t'es maçon et tu vas aider à la maçonnerie sur différents chantiers, de quelle façon tu es pris en charge ?
Eh bien, en fait, la première année, il faut que tu puisses subvenir à tes besoins personnels.
Ah.
Donc, en fait, tu fais don de ton travail. Donc, déjà, tu commences par un exercice assez coriace parce que ça fait partir certaines personnes parce que les gens n'ont pas forcément les fonds.
Bien sûr. Ça coûte combien? Parce que Auroville, c'est pas non plus Paris. Combien il faut pour survivre? Donc, c'est-à-dire se loger et se nourrir à Auroville pendant un an.
Ah, pendant un an, je pourrais te dire au moins, on va calculer.
Au moins.
Au moins, genre 200-300 €.
Ok, donc si t'as 4 000 €, tu peux t'en sortir sur un an à Auroville.
Ouais, franchement, 300 large. Enfin, 300, t'es bien.
Ouais.
Tu peux facilement bouffer pour 1 ou 2 €, tu vois.
D'accord.
Le plus cher, c'est le logement. Auroville, c'est petit, donc tu peux largement te déplacer à vélo.
Ouais.
Donc tu loues en vélo ou tu t'achètes un vélo. Et le logement, on va dire 10 000 roupies, on va dire un peu plus de 100-150 € par mois.
Mais du coup, si je comprends bien, c'est à peu près 100 € pour pouvoir se loger à Auroville et 100 € aussi pour pouvoir manger. Mais c'est quoi comme type de logement qu'il y a? J'imagine que ce n'est pas des duplex avec piscine. c'est plutôt
non.
des petites huttes.
Alors, il y a des huttes qui étaient les logements des tout premiers pionniers.
Ouais.
Après, tu as des chambres. Des chambres chez l'habitant aussi. Et après, tu as pas mal de house-sitting aussi. Donc, okay. vu qu'il y a pas mal d'étrangers qui sont installés ici, quand ils se barrent, ils mettent leur maison ou leur appart, parce qu'il y a les deux ici, okay. à disposition. Et du coup, tu peux...
Ouais, tu t'en occupes pendant leur absence, en échange justement de ce fameux logement
ouais.
pendant le temps de leur absence. Ok.
Ouais.
Et justement, maintenant, j'aimerais qu'on arrive sur ton expérience à toi, sur ton regard à toi.
Mm.
Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à aller vivre cette expérience à Auroville? Et en plus, toi, ça fait 3 ans que tu y es. J'aimerais, je te poserai la question, qu'est-ce qui t'a amené à y rester, mais surtout, à la base, qu'est-ce qui se passait dans ta vie pour que tu aies envie de te mettre dans une espèce de bulle de douceur? Parce que j'imagine que d'un regard extérieur, quand on va à Auroville, on se dit qu'on va dans une bulle bienveillante et de douceur. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Qu'est-ce que tu cherchais?
Alors moi, tout est parti d'un burn-out à Paris.
Ah, ok,
il
d'accord.
Il y a 4 ans.
Ouais. C'était quoi ton boulot?
Et
consultante?
Je travaillais pour une agence web. Non, même pas.
Okay.
Non, en fait, je travaillais pour une agence web à Paris.
Ouais.
Et mais c'était pas seulement mon travail en tant que tel qui m'a poussée au burn-out. En fait, j'ai fait un burn-out de vie et pas seulement un burn-out de travail. C'est-à-dire que j'étais dans le trop-plein de vie, de faire, etc. pendant, je pense, une dizaine d'années.
Qu'est-ce que
ça...
tu appelles le trop-plein de faire, le trop-plein de vivre? Je trouve ça super intéressant comme concept. J'ai jamais entendu le trop-plein de faire, de vivre. T'as trop vécu, t'as trop voulu faire? C'est quoi en fait?
Oui, j'ai voulu faire trop et optimiser le temps d'une manière trop poussée.
Ça se manifestait comment dans ton quotidien?
Ben, j'étais occupée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La solitude, j'ai découvert à 28 ans.
Okay.
Je savais pas ce que c'était. Pas que ce que j'ai découvert par la suite, notamment pendant des retraites de méditation et tout, je me suis bien aperçue que c'était pas par peur de la solitude. Donc ça m'a vachement réconfortée et rassurée. Mais juste, j'étais beaucoup trop focalisée sur social, tu vois, sur l'autre, les autres. Et la vie en communauté, la vie avec les autres, etc. Et le faire. Parce qu'il y a le faire et il y a l'être.
Et c'était quoi la différence que tu as mise aujourd'hui?
La différence, c'est que déjà maintenant, je sais ce que ça veut dire se reposer. Alors qu'avant, j'étais incapable de définir ce mot. Je sais ce que c'est, je sais comment faire et je le fais.
Qu'est-ce que tu fais? Je pense que ça pourrait être utile à certaines personnes.
Parfois, je fais rien. Par exemple, une de mes activités favorites à Auroville, parce que c'est un très bel endroit qui est très calme, c'est un endroit tropical avec beaucoup d'oiseaux, beaucoup de fleurs, beaucoup de belles végétations et des belles brises et tout. Et un truc que j'adore faire à Auroville, c'est attendre.
Attendre? T'attends quoi?
Ouais.
Tu donnes un rendez-vous à quelqu'un à 14h et t'arrives à 9h du matin, c'est ça? Non, mais t'inquiète, je suis en avant, je t'attends.
Et j'ai tendance à ranger mon téléphone, par exemple, quand je dois attendre, parce que je me dis « Ah là, c'est 5 minutes, yes, je vais pouvoir attendre. »
En fait, c'est un peu de lâcher prise et c'est commencer à juste laisser le temps qui file sans essayer de le combler, par être stimulé cérébralement par de la dopamine à travers son téléphone, une cigarette ou faire quelque chose avec ses mains. Et pour
c'est
revenir
ça.
Justement sur ce fameux trop-plein de vie, ce burn-out, c'est que en fait, si j'imagine un peu la vie d'une Parisienne dans une agence web, c'est je me lève le matin la tête dans le cul parce que la veille je suis sorti, je bois 17 cafés dans la journée, je fume 27 clopes, je suis au taquet toute la journée, je finis à 20h, je fonce à un after work où je vois des potes, je rentre tard chez moi, je me crache sur le canapé, enfin sur le lit, et puis après je rebelote, et puis finalement il n'y a jamais de temps mort, t'es booké 4 semaines à l'avance si tu veux avoir des potes.
Ouais. C'était ça plus que moi, j'étais en train de quitter mon boulot. En fait, j'ai fait mon burn-out juste après avoir quitté mon boulot.
Ah, ce qui est un bon concept.
Oui, c'est pas mal. Ouais.
Ils ont dû être contents. Oh putain, ça a failli nous tomber sur la gueule, c'est bon.
C'est clair.
Ouais, putain, elle s'est crachée toute seule elle-même, toute seule chez elle.
Mais en fait, j'avais un projet entrepreneurial.
Ouais.
Et en fait, que j'ai entrepris, mais je me suis lancée genre à corps et âme dedans. Beaucoup trop vite, je voulais aller beaucoup trop vite et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et c'est que maintenant, 4 ans après, que je commence à savoir. Donc, c'est dire, tu vois. Et voilà, donc tout ce que tu as cité tout à l'heure, plus le projet entrepreneurial et tout, voilà. Il y a un jour, ça s'est effondré. Et je me suis retrouvée à une réunion parce que je faisais partie d'un projet de gestion des déchets aussi... à Paris, un side project quoi, entrepreneurial. Et en fait, je me suis retrouvée à une réunion et j'arrivais plus à suivre. Mon cerveau, ça marchait. ça marchait plus du tout. Il y avait plus rien qui marchait. J'étais ah merde, il y a un problème là. Et du coup, je suis sortie de la réunion et je me suis dit, alors là, soit je fais une dépression, soit c'est un autre truc, soit c'est peut-être un burn-out. Je connaissais le terme burn-out, mais je savais pas exactement ce que c'était. Et en plus, enfin, en rentrant chez moi, je cogitais et tout. J'étais là, mais dépression. Moi, je suis une éternelle optimiste. La dépression,
c'est pour les autres.
Pas trop, quoi.
Ouais, c'est pour les autres. Et est-ce que justement pour ceux qui peut-être ont certains symptômes, ont certains rythmes de vie comme tu viens de le décrire, est-ce que tu arriverais à décrire au sens large de quelle façon ça se manifeste un burn-out ? Parce que j'imagine que du coup, tu as dû te renseigner sur le sujet. Est-ce que tu pourrais nous décrire ça ?
Bah, je l'ai vécu.
Aussi, ouais.
Un burn-out, bah, tu n'arrives plus à te concentrer, tu as un trop-plein de travail. Un trop plein dans ta vie, tu vois, t'arrives plus à te concentrer, t'arrives plus à être proactif. Moi, il y a des tout petits trucs, j'y arrivais plus, quoi, j'arrivais plus à avancer, en fait. Ouais. Alors, je suis très, très proactive de nature. Ouais. Je sais que certains qui font des vrais burn-out de travail, eux, ils deviennent déprimés et tout. Moi, j'ai jamais eu ça.
Alors, j'ai eu même des cas de personnes que je connais qui, en fait, il y a aussi des malaises, des espèces de malaises vagales. Ou alors, le matin, tu te réveilles, donc ton cerveau est réveillé, ton corps ne répond plus. Là, c'est vraiment,
ouais,
ton corps, il dit, hey, c'est quoi ? Reste au lit, s'il te plaît. Ah, tu veux pas ? Bah, ok, ouais. On bouge pas, nous. Et le corps, vraiment,
exactement,
ne répond pas.
C'est ça.
Et ça t'a fait ça aussi, toi ?
Oui. En fait, mon corps, et c'est là, en fait... ça fera un peu le point avec la spiritualité. C'est là que j'ai compris qu'on a le corps, c'est une entité, et on a une deuxième entité qui s'appelle l'esprit, le mental. Et ils peuvent être en dissonance. Donc, ça veut dire en désharmonie. Et moi, j'ai été dans la désharmonie la plus complète parce que, pour moi, mon corps, c'était un ordinateur. Donc, le matin, à 8h, bim, faut y aller, paf, sur mon vélib et tout, j'allais au taf, machin, tac, 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 check mes mails, je bosse toute la journée, à midi, le déj avec les potes pour réseauter, voilà, tout ça, toute la journée, paf, je rentre à minuit après avoir vu mes potes, et là, faut que je dorme, et là, ça marchait plus. Donc, déjà, j'avais des insomnies, et le jour où je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un burn-out, eh ben, le corps ne répondait plus. J'avançais, mais je n'exagère même pas, j'avançais au rythme d'une vieille en déambulateur. J'arrivais plus à avancer physiquement.
Ah ouais.
J'étais comme un téléphone avec 3% de batterie.
Quand ça lag à mort.
Voilà.
C'est ça.
Et voilà, et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon là, faut faire un truc. Il se trouve que des personnes de ma famille partaient en Asie, que tout ce à quoi je m'intéressais, c'était des choses qui venaient d'Asie, c'est-à-dire le yoga, la méditation et le bouddhisme. Je me suis dit, ça coûte un bras ici, je suis au chômage, je me casse en Asie, je vais aller voir, je vais aller trouver ma paix intérieure là-bas, en fait. C'était ça mon ambition. Et en fait, bah, je ne me suis pas loupée. Parce que du coup, je suis partie au Népal.
Ouais.
Il y a une nana
la
qui
base,
parlé...
Katmandou.
Exactement.
Bah ouais, mais attends, on y va.
En fait, au début, j'avais comme plan Asie du Sud-Est parce que mon père allait là-bas.
Ouais.
Vu que j'étais un peu faiblard, je m'étais dit, bon, c'est un bon backup et tout. Mais il y a une meuf à Paris qui m'a parlé de Vipassana, que je sais que tu as fait parce que
Exactement.
J'ai écouté ton podcast.
Exactement.
Donc, Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une retraite de méditation basée sur les enseignements de Bouddha, qui est une retraite laïque. Donc, ce n'est pas bouddhiste au sens religieux, c'est accessible à tout le monde. Et donc, c'est une retraite en silence de 10 jours pour apprendre la technique de méditation Vipassana. Donc, moi, je suis devenue une grosse fan de Vipassana. Entre-temps, je l'ai fait 3 fois.
Ah ouais?
Eh ben oui, parce qu'en Inde, il y a des centres partout. En Europe, il y en a beaucoup moins. Il y a des listes d'attente. Ici, tu y vas une semaine à l'avance, et c'est bon.
Ouais. Mais en plus, c'est sûr que si tu avais un trop-plein, je trouve que Vipassana, c'est extraordinaire pour ça. Parce que vraiment lu l'image en moi de la espèce de bouche à incendie qu'en fait, tu sens qu'il y a une pression à l'intérieur de ton corps parce que tu as emmagasiné, souvent, c'est pas que des bons trucs. Et tu ouvres la bouche à incendie, là, paf, ça explose.
Ah ouais.
Tu ressors plein de choses qui sont coincées un peu partout dans ton corps, dans ton esprit. et que effectivement, si toi en plus t'es parti dans des conditions où il y a eu un vrai trop-plein, et deux, trois vidanges, c'est bien.
C'est clair. C'est bien. Et j'ai adoré cette expérience parce que du coup, au Népal, j'ai passé 3 mois à faire que ça. Donc, méditation, yoga, j'ai fait une retraite. Donc retraite vipassana aussi, et puis j'ai passé tout un temps à faire des cours de bouddhisme aussi dans des monastères, et puis après je suis allée me balader un peu dans les Himalayas aussi, tant qu'à faire.
On est dans le coin, hein, à crapahuter, ouais. Est-ce que d'un regard, tu sais, je pense extérieur, que ce soit la famille, les amis et même peut-être toi, est-ce que eux, en tout cas pour prendre cette première partie de la question, c'est, ils n'avaient pas l'impression que tu tombais un peu dans une secte? T'es genre, oula, Laure, là, elle est un peu chépère, là, la fille, là, elle est en Himalaya, mon pote. Mmh. Elle fait que faire des harmonia toute la journée, c'est chelou, quoi, tu vois. Est-ce que t'as eu ça un peu comme feedback, comme crainte aussi, ton entourage, que si tu vas pas bien, il s'inquiète?
Alors, parmi mes potes, personne m'a rien dit. Ils m'ont dit, bon, bah, vas-y, tu vois, je me rappelle encore, j'ai une pote qui me souhaitait de trouver ma paix intérieure. Ouais. J'ai trouvé ça très beau.
Tu te faisais juste charrier dans ton dos sur leur groupe WhatsApp. Putain, leur, elle est chépère, mais bon, vas-y, on l'encourage. Hein. Mais ça, tu sais pas, voilà, je te le dis maintenant.
Ouais, mais d'ailleurs, c'est ce que mon dernier boss m'a dit, que j'étais perché. J'étais là, merci.
Merci, ça me va. Je suis perché loin sur Katmandou. Ouais, du coup, et la famille, eux, peut-être, avaient plus de réserves ou pas?
Ben oui, ils s'inquiétaient un petit peu quand même. Ils m'ont dit fais attention aux sectes et tout. Alors, résultat des courses, je n'ai jamais traversé le chemin d'une secte de ma vie.
Génial. Donc, ouais, il n'y en a personne qui t'a approché, personne qui t'a fait des trucs, genre viens avec nous. Ouais, ça peut être ça.
Et puis. Non, trop pas. Et puis, en plus, moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et donc, c'était la première fois que je voyageais vraiment en solo en Asie. J'étais déjà partie toute seule en Australie, mais genre, il y avait le cousin de je sais pas qui était là-bas. Enfin, tu vois, j'avais un peu mes repères. C'était la première fois que je...
Excuse-moi, je te coupe. C'est surtout quand tu t'immerges aussi longtemps dans cette démarche-là de méditation, de recharge, tu recharges un peu ton cerveau de la bonne façon et tu t'apaises un peu ton corps, tu recharges les batteries physiques. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi le process? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'ennui? Est-ce qu'il y a, je sais pas, au contraire, de l'espèce d'épanouissement? Est-ce que l'importance que tu donnais à certaines choses sont modifiées? T'es passé de quoi à quoi?
Bah oui, ça a été une énorme transition pour moi, une énorme prise de conscience, et aussi d'être dans ces univers-là, ça m'a permis d'apprendre énormément sur moi-même, sur le fonctionnement du mental, le fonctionnement du corps, la relation entre les deux, la tyrannie du mental aussi, et maintenant, mais clairement, je suis une autre personne, quoi. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup changé. Mais en fait, j'ai beaucoup changé dans mon traitement envers moi-même. La façon dont je me traite moi-même.
C'est bête, mais si tu devais parler de toi à la troisième personne, on va se la jouer un peu Alain Delon. Si tu devais décrire la Laure d'avant, tu sais, même avant le burn-out, vraiment dans cette vie d'avant, et la Laure d'aujourd'hui à la troisième personne, comment tu décrirais chacune d'elles?
Bah, la Laure d'avant était over sociale, à sortir tout le temps, à faire plein de trucs, à jamais s'arrêter. Et la Laure d'aujourd'hui, elle est apaisée. Et elle sait prendre le temps, elle a compris que la vie, c'était pas que faire, faire plein de trucs, et qu'il vaut faire moins, qui vaut mieux faire moins mais mieux.
Ah, c'est ça. Et en fait, tu sais, je pense que quand tu dis la Laure d'avant, elle était over sociale, etc., d'un regard extérieur, pour ceux qui n'ont pas forcément cette démarche de se poser des questions, on se dit je vois pas le mal en fait. Je vois pas le mal à être toujours à droite à gauche. Qu'est-ce que, avec du recul, c'était quoi les aspects négatifs, si tu devais les décrire, de cette over socialisation?
En fait, avec le recul et là où j'en suis maintenant, je trouve que c'était une vie assez vaine, en fait. Ma seule préoccupation, c'était travailler, donc me faire du fric, sortir et voir mes potes et ma famille.
Et qu'est-ce qui te manquait dans tout ça? Parce que finalement, encore une fois, ça peut paraître cool. Enfin, t'as de l'argent pour voir,
Ouais.
pour sortir, voir des potes et voir ta famille. Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce,
Ouais.
tu vois, et que t'as aujourd'hui?
Le sens à
Ah.
la vie.
Ah,
C'est
c'est
ça
quoi le
qui me
sens que t'as
manquait.
trouvé?
Bah, le sens, c'est que non seulement maintenant je travaille pour des projets écologiques, donc je participe à une planète plus propre.
Ouais, des choses qui te font
Entre-temps, j'ai.
du sens pour toi
Vas-y.
au sens large, en fait, c'est ça, en
C'est
fait.
ça.
Ouais.
Ouais. Ben, oui, c'est ça. En fait, ma vie a commencé enfin à prendre du sens depuis. En fait, surtout depuis que je suis à Auroville, quoi. Parce que je travaille, je participe à un projet énorme qui est d'être une société modèle pour le monde. Parce que donc, ce que je n'ai pas encore raconté, c'est que Auroville, c'est une ville expérimentale. Donc, c'est une ville qui vise à expérimenter tout ce qui est du monde intérieur et du monde extérieur. Donc, ça veut dire spirituel à l'intérieur et extérieur, c'est tout. C'est genre le social, l'économique, le politique, l'architectural. Surtout l'architectural, ici, c'est un terrain de jeu de malade.
Ah, ok, génial. Ah, il y a des trucs stylés.
Ah ouais, il y a des baraques super stylées, hyper futuristes, mais futuristes des années 70, tu vois, donc ça fait un
Ok,
style.
je vois.
Et ouais, donc du coup, ma vie a un sens à ce niveau-là et aussi au niveau de mon travail, parce que comme je disais, avant, à Paris, mon seul but, c'était de faire monter mes chiffres et de faire de la croissance financière. Ce qui ne m'intéressait pas depuis le début, en fait, je voulais travailler pour des projets écolos, enfin pour l'environnement. Et en fait, il se trouve que mon chemin professionnel a été dévié par des opportunités, donc j'y suis allée. C'était des bonnes opportunités dans le web, donc je regrette rien, surtout que maintenant ça me sert beaucoup. Parce que savoir gérer des sites web de nos jours, c'est hyper important, surtout quand on a une démarche entrepreneuriale.
Bien sûr.
Et voilà, et du coup, maintenant, ma vie a plein de sens parce que ne serait-ce que travailler donc à la réalisation de l'idéal d'Auroville fait sens. Je travaille pour l'environnement. Et en fait, entre-temps, j'ai fait aussi une formation de yoga et une
Ah.
formation de massage.
Ah, yes.
Et donc, du coup, j'aide aussi les autres à trouver leur bien-être à eux. Parce que, bien évidemment, quand on arrive à trouver son bien-être à soi, on a envie de le semer autour de soi.
Génial.
Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, je me retrouve à travailler pour l'écologie interne et l'écologie externe.
Et je comprends, et je trouve, enfin, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi tu es là et pourquoi tu t'y sens bien. Et ça amène la question, tu sais, j'essaie toujours de me mettre du point de vue extérieur, un peu candide, et on se dit, ouais, mais Auroville, c'est spirituel. Voilà, t'es là, t'es en train de méditer. Est-ce qu'on se fait pas un petit peu chier quand même de temps en temps? Tu vois? Est-ce que je pense que la peur des gens qui peut-être auront envie de tenter l'expérience, même par curiosité, sans vouloir y faire leur vie, se disent, ouais, enfin, on va se faire chier s'il fait que méditer. Tu vois, tu bosses, tu médites, tu fais ton yoga à force et au bout de 2 semaines, c'est bon, ça m'a gonflé. Est-ce qu'il y a finalement, est-ce que justement j'ai caricaturé bien le trait? Est-ce que quand même il y a moyen un peu de s'amuser, justement, de découvrir d'autres façons de s'épanouir et de
Ouais.
s'amuser, ou qu'on c'est quand même très axé là-dessus?
Alors, donc, à Auroville, donc tout le monde travaille. Donc, maire a donné des direct, enfin, ouais, donné des directives à ce niveau-là et a, enfin, recommande fortement de travailler minimum 5 heures par jour, 6 jours sur 7. En Inde, on travaille 6 jours sur 7.
Ok.
Et le truc, c'est que, tu sais, pour venir à Auroville, il faut vraiment aspirer à l'idéal. Enfin, si on veut rester longtemps, tu vois, on peut venir pour une expérience, auquel cas, alors ça, ce que je suis en train de dire, ça vaut rien. Mais si tu veux rester pour une vie, si tu veux rester longtemps, il faut aspirer à l'idéal, parce que sinon, ça marche pas en fait. Juste, ça marche pas. parce que bah il y a beaucoup, il y a quand même des choses qui sont pas forcément faciles à Auroville, c'est-à-dire que on travaille à l'harmonie, à créer l'harmonie, la paix et être un exemple à ce niveau-là, mais bien évidemment il y a plein de conflits. Je veux dire, on est 50 nationalités différentes, il y a des groupes dans tous les sens parce que il y a pas de tu vois, il y a pas d'identité qui
autoritaire.
Ouais, okay. Auroville. Mère, elle est décédée en 73. Donc, il n'y a pas de chef à Auroville. C'est une... comment on dit ? C'est autogéré. C'est un endroit autogéré, une ville autogérée. Donc, quand on est autogéré, eh ben, tout le monde veut mettre son grain de sel dedans. Et donc, du coup, parfois...
C'est le bordel.
C'est le bordel, c'est la merde. Et ça crée des conflits et tout. Donc, c'est hyper animé à ce niveau-là.
Ok, non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, voilà. Tu vois, même quand t'es plein de bonnes intentions, que tu vas là-bas, que tu t'immerges dans cette mission de vie aussi, de créer l'harmonie, de vivre dans une ville où il y a de l'harmonie, tu te fais aussi rattraper par qui tu es, d'où tu viens, et tu fais face à l'autre personne qui vient d'ailleurs et qui a été forgée à d'autres mentalités. Donc ça crée pas mal de conflits. Comment tu fais dans ces cas-là? Parce que s'il n'y a personne qui est là pour trancher, comment ça se passe ?
Bah justement, c'est là que le travail doit se faire. C'est que chacun doit travailler sur soi. Vu que le travail premier à Auroville, c'est de travailler sur soi-même. Bah, il faut travailler sur soi-même, tu vois. Il faut prendre sur soi. Il faut se remettre en question. Et travailler sur soi pour avancer et arriver... évoluer vers cet idéal, tu vois.
Parce qu'en gros, si deux personnes sont... En fait, il y a un peu une... Pas une obligation, mais si on doit avancer. Si tu campes sur tes positions et moi, je campe sur mes positions, déjà, ça ne matche pas vraiment avec l'idéal et la mentalité d'Auroville. Et surtout, de toute façon, ça restera frisé dans le temps puisque en gros, il n'y a personne qui sera là non plus pour trancher. Il n'y a pas de loi particulière.
Ouais. Okay. Oui, c'est ça.
Okay. Est-ce qu'il y a de la
crime... justement, tu vois, ça...
Ouais, vas-y, vas-y.
Vas-y, dis-moi. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, ça te responsabilise vachement, tu vois, aussi. Il n'y a personne qui est là pour trancher, donc tu dois te responsabiliser aussi dans tes actes.
Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a de la criminalité juste à Auroville ou pas ?
Depuis que je suis là, je n'ai
oui,
pas
ça,
entendu...
Ça a augmenté en flèche depuis que je suis là. Je me fais quelques petits braquages de temps en temps.
Et bien justement, il y a des braquages parfois. Enfin, pas des braquages, des cambriolages.
Ah merde.
Ça arrive.
Et tu penses que ça vient plutôt de l'extérieur? Parce que du coup, vu que c'est une société idéaliste, il y a un peu moins de protection, on fait un peu moins attention. Et du coup, il y a des gens qui viennent un peu mettre le nez dedans. Ou c'est intérieur?
Non, en fait, c'est pas ça déjà. Je sais pas qui sont les cambrioleurs ou quoi. Ça, j'avoue, j'ai jamais trop su. Mais on suppose que c'est des gens qui sont pas d'Auroville. Mais ce qui se passe, c'est que Auroville a été construit au milieu de villages, des villages qui sont pas très très pas très très riches et pas très très développés. Et Auroville, la moitié de sa population vient de l'étranger. Donc ils viennent aussi avec leur thune, quoi. Et donc, ce qui fait que certaines personnes, mais bien entendu pas toutes, ont parfois construit des belles baraques, ont tout un tas de possessions, qui fait que les gens savent, les villageois savent, et du coup, ils viennent
faire un petit peu
cambrioler.
Ouais, faire un petit peu de shopping comme ça.
Un peu de shopping, ouais. Et le truc, c'est que, en fait, donc, Auroville, c'est censé être un lieu où on apprend la dépossession.
Ouais. Ah bah au moins, ils les aident. Ça, c'est sympa quand même.
Ouais.
Parce que si tu viens avec tes tableaux et ton écran plasma, c'est chiant. Les villageois, ils ont compris qu'ils pourront t'aider. Il faut les remercier.
Mais c'est ça l'exercice aussi, tu vois. Vu que, en fait, on ne peut évoluer spirituellement que quand on est dans la dépossession.
En tout cas,
On
le
expérimente.
détachement, ou en tout cas le détachement vis-à-vis
C'est
d'un
ça.
objet. C'est-à-dire que tu peux posséder
Voilà.
quelque chose si ce n'est pas l'objet qui te possède, en fait. C'est-à-dire que des fois, on est tellement omnibulé par quelque chose que,
Exact.
ok, tu es content d'avoir quelque chose, c'est là, tant mieux, tu l'utilises, c'est cool, c'est parti demain, bah, c'est un objet, en fait. C'est un peu ça qu'il faut essayer d'appréhender
C'est
comme
ça.
concept.
En
Ok.
fait, toutes ces possessions créent du remue-ménage dans la
Une
tête,
charge
donc dans le
mentale,
mental.
clairement.
Exact. Et en fait, l'idée, le concept du yoga de Sri Aurobindo, c'est de transcendanter ce mental. C'est d'aller au-delà du mental. Donc, on veut se décharger. Donc, on veut se décharger aussi des possessions. Sauf que, ben, pas encore tout le monde a compris et a mis ça en pratique.
Je comprends.
Et ça, c'est par exemple un truc qu'Auroville m'a vachement apporté, cette notion de dépossession et dans laquelle j'ai beaucoup grandi et évolué, parce que maintenant, ben, je peux dire que je suis devenue minimaliste.
Ben c'est là où j'allais en venir. C'est il y a une grande mode en ce moment qui vient des États-Unis, qui est sur le minimalisme. Donc le minimalisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment posséder que les choses qui sont vraiment utiles dans ta vie et potentiellement un objet, essayer qu'il soit utile pour plusieurs choses et pas
C'est ça.
démultiplier tes possessions, démultiplier tes pour que tout soit rempli, tes placards, ton truc, accumuler les biens. C'est un peu ça la tendance. Je sais que c'est quelque chose qui, moi,
Ouais.
me parle particulièrement et que j'essaie d'appliquer à ma vie, le minimalisme. Parce que et même quand, par exemple, des vêtements que j'ai en trop, je les donne. Enfin, j'essaie de pas accumuler un certain nombre d'items. Et à chaque fois que je dépasse, et c'est même pas un chiffre, c'est que des fois je le vois, je sens que j'ai trop de choses dans mes placards ou dans mon sac. Ou... En fait, ça te pèse, en fait.
Ouais.
C'est une vraie charge mentale et que. C'est pour ça que, bon, après, il y a plein de facteurs qui faisaient que, mais chaque fois que je suis en voyage et que ma vie, entre guillemets, tient dans un ou deux sacs, tu te sens
Ouais.
bien, tu te sens léger, tu te sens
Grave.
flexible, tu te sens adaptable, tu te sens enclin à profiter de chaque instant parce que t'as pas à tant t'inquiéter parce que quand tu as des possessions et plus elles sont de valeur, plus ton cerveau reste dans ces positions, dire est-ce que quelqu'un va me les
Ouais.
voler? Est-ce que ça va se
Oui.
dégrader? Est-ce que ceci, est-ce que j'ai pensé à faire ça? Est-ce que machin? Alors que quand tu as peu de choses, t'es ici, là et maintenant, et tout ce qui compte, c'est la situation actuelle, c'est la personne qui est en face de toi, et c'est comment t'en profites en
Ouais.
fait, et comment tu vas
Ouais.
tourner cette situation actuelle, je dirais pas, même pas à ton avantage, mais que tu vas en tirer le meilleur parti. Est-ce que tu vas rire? Est-ce que tu vas apprendre? Est-ce que tu vas aimer? Est-ce que tu vas partager? Est-ce que tu vas te dépasser? Et non pas, est-ce que je vais perdre? Est-ce qu'on va m'attaquer? Est-ce que je vais me faire braquer?
Ouais.
Est-ce que j'ai oublié un truc? Et tout ça, c'est des énergies négatives
Ouais.
qui sont liées à ça, et le minimalisme,
Exactement.
je pense que c'est une bonne chose, c'est une excellente chose, qui en plus va
Ouais.
vers quelque chose dont on a besoin, qui est la décroissance, c'est-à-dire consommer moins
Oui.
mais mieux.
On parle que de mes sujets favoris, là.
Ouais, mais j'ai compris, j'ai senti que tu étais une bonne cliente.
Mais en fait, tu vois, moi, ce que je kiffe vachement dans le minimalisme aussi, c'est ce sentiment de liberté.
Bien
Tu te
sûr.
sens vachement plus libre.
Complètement.
Et ça, c'est un truc auquel on travaille aussi à Auroville. C'est de se libérer, en fait, de devenir des êtres de plus en plus libres, libres de penser, libres de faire. C'est un endroit hyper anticonventionnel avec beaucoup de gens anticonventionnels.
Les mecs qui se baladent à poil, c'est ça?
Ouais, non, ça, non, quand même.
On reste en homme.
Mais.
On
Mais
va
t'as
faire la
de
guerre.
tout, tu vois. T'as des petites bourgeoises françaises de Paris, comme t'as des Rastafari, des Africains, des Chinois, des
Ah ouais.
Coréens. T'as de tout, de tout, de tout. Et moi, c'est ce que j'aime trop à Auroville, c'est que c'est hyper diversifié. En fait, c'est hyper anticonventionnel, donc il y a peu de conventions sociales. Donc, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Genre, tu sais qu'on va pas te juger, tu vois, tu te trimbales pieds nus, tout le monde s'en fout. Tu te trimbales en pyjama, je suis sûre, personne ne va rien te dire. Bon, après, il fait chaud ici, tu vois, c'est pas comme en France.
C'est vrai, si tu mets une doudoune, on va plus se foutre de ta gueule parce que t'es en train de transpirer que tout ça. Ouais, mais c'est. Et pour
Ouais.
revenir sur le côté, justement, parce que je pense que quand on s'amuse un minimum, quand on rigole, ça participe au
Ouais.
bien-être et spirituel aussi,
Ouais.
selon moi. Enfin, c'est le Dalai Lama, il le dit souvent, faut pas se prendre trop au sérieux. Ça sert à rien, en fait, sinon t'as rien
Ouais.
compris, en fait. Et se prendre beaucoup au second degré, à la dérision, mais. C'est quoi les loisirs qu'il y a à Auroville? Parce que, encore une fois, ça fait un peu genre une ville d'asset, tu sais, où genre on travaille, on médite, on fait du yoga. Est-ce qu'il y a des loisirs ou est-ce que justement les loisirs comme les sports collectifs sont vus comme qui ne matchent pas avec la spiritualité puisqu'il y a un esprit de compétition et l'esprit de compétition ça veut dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Est-ce que ça il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas?
Oui, mais dans les sports il y a aussi l'esprit d'équipe, l'esprit d'unité, donc on peut le voir aussi de l'autre côté.
Je sais pas.
Okay. Mais non, mais à Auroville, non, il y a vraiment de tout. Il y a plein d'activités. Déjà, on a des centres sportifs.
Ah, ok.
Il y a des centres sportifs. Il y a plusieurs zones à Auroville. Tu as une zone résidentielle, une zone industrielle entre guillemets. Donc, c'est des zones de service et de production.
Ouais.
On a une zone culturelle. Donc, on a aussi une salle de concert, on a un cinéma.
Ah oui, d'accord.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a une zone internationale où il y a des pavillons culturels et donc qui servent à promouvoir la culture de chaque, enfin de plein de pays ou au moins de chaque continent.
Génial.
Donc il y a trop de trucs à faire. En fait, tu vois, maintenant vu que c'est la période du corona, c'est trop bizarre parce que il y a très très peu d'événements en ce moment parce que nous, en plus, après 5 mois, on est toujours en plus ou moins en lockdown, en confinement.
Okay.
Bon, ça vient enfin de se relâcher un petit peu, mais d'habitude, il y a genre 4 pages dans le journal d'événements à Auroville.
Ah ouais.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de touristes à Auroville, normalement. Ah. Maintenant, il n'y en a plus.
Donc c'est, d'habitude, en fait, c'est quand même un lieu qui est très vivant quand même.
C'est hyper vivant. Donc les gens se lèvent tôt et se couchent tôt. Il n'y a pas de bar. Les restaurants ferment à 9h quand même à tout péter ici. Donc si tu veux faire de la nightlife et tout un petit peu, tu peux aller à Pondichéry à 10 km si tu veux picoler et tout, parce que à Auroville, donc comme je disais, il n'y a pas de bar, donc il n'y a pas d'accès à l'alcool.
Ouais.
Au club, etc. En fait, il y a une telle diversité qu'il y a aussi une énorme diversité de savoirs et d'activités qui est donc de choses à partager. Et donc, surtout pendant la haute saison qui est pour nous de, disons, novembre à mars,
ouais.
Bah, y a la dose de touristes qui viennent rien que pour ça, pour faire du yoga, pour apprendre plein de thérapies. Je te donne des exemples, par exemple, des trucs à apprendre, de la permaculture,
yes.
La musicologie. On a développé un certain type de shiatsu dans l'eau ici à Auroville qui s'appelle du watsu.
Ok.
Donc c'est du shiatsu dans l'eau, c'est un kiff total ce truc, c'est trop cool. Et sinon, on a aussi des bouts de. On est situé à côté de la mer, mais Auroville, la grande majorité n'est pas en bord de mer, mais on a 2 parcelles de plage.
Ok.
Où on peut aller aussi, où beaucoup d'Occidentaux vont le dimanche pour aller à la plage, parce que aller à la plage en Inde, c'est pas coutume. Et donc, c'est en fait le seul endroit où on peut se foutre en maillot,
oui.
Tranquille et bronzé un peu, parce que bien évidemment, les Indiens, bronzés, ça les intéresse pas. Ils veulent être le plus blanc possible.
Ils sont cons, ces Européens. Nous, on se fait chier à rester blanc et n'importe quoi.
donc voilà, donc en fait il y a énormément de vie et énormément de choses à apprendre et de savoir à acquérir ici, mais au niveau de la nightlife, non, tu seras pas servi. Enfin, même tu vois, s'il y a des concerts, même des films et tout se finit en général vers 9h.
Ouais.
Fut en temps, il y avait un peu des soirées, mais les gens sont là en premier pour la spiritualité, tu vois. Donc si tu veux sortir, faire des chouilles et tout, soit t'en fais chez toi, soit tu vas à Pondichéry, quoi.
Ok, ouais, je vois. Non, mais
voilà.
Au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de distractions, il y a quand même beaucoup de choses culturelles,
ah,
c'est
oui.
Aussi ça, tu vois. Je pense que s'amuser, c'est pas uniquement boire de l'alcool et écouter de la musique et être dans des bars, tu vois. C'est
ouais.
Peut-être justement, il y a un moment, quand
tu
sors de ta vie parisienne, tu veux prendre goût à d'autres types de loisirs et de divertissements, sinon...
Ouais.
Sinon, autant rester à
Paris
ou dans ce genre de ville. Enfin,
Mais clairement. Et puis, c'est ça qui est incroyable à Auroville et qui, moi, clairement, me fait rester à Auroville. C'est que tu as accès à un panel de savoirs et de découvertes et d'expériences internes et externes, du coup, qui sont ouf, tu vois. Moi, j'ai appris trop de trucs ici. Pour te donner un exemple, maintenant, je m'y connais en plantes comestibles, en fleurs comestibles.
Yes.
Bon, je connaissais rien. La permaculture, là, c'est bon, j'ai commencé mon jardin, le compost. J'ai appris à coudre, à faire du crochet. Et j'en passe, tu vois. Enfin, et puis du coup, tu rencontres plein de gens improbables et beaucoup trop intéressants, tu vois. L'autre fois, je suis allée donner un massage à bon, pour le coup, c'était quand même un vieux hippie. Mais les hippies, c'est marrant, tu vois, c'est trippant. Le mec, avant de faire... Il n'y a pas que ça, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, tu as quand même aussi des bourgeoises, des meufs qui se en poponnent et tout. Enfin, voilà, t'as de tout. Parce que je veux pas qu'on pense qu'Auroville, c'est un endroit de hippies, parce que c'est pas vrai. Et en plus, les hippies font des choses très bien.
Moi, j'adore les hippies. J'adore les hippies, attention. Hein. J'adore les bourgeoises, moi, j'adore tout le monde. Tant que t'es pas con, ça me va. Hein.
Et donc, le mec, j'arrive et tout, il me dit... J'allais donc lui donner un massage et il me dit là, justement, j'allais fumer un petit pétard, t'en veux? Moi, je fume pas, donc j'étais là, non, mais franchement, vas-y, si ça te fait du bien, moi, ça me dérange pas, et puis j'ai le temps, tu vois. Bon, après, on fait le massage et tout, puis après, bon, il sentait bien, on se prend un petit thé après. Et là, il commence à me dire ce qu'il fait, parce que je le connaissais pas, et il commence à me parler de ses cours d'astronomie qu'il donne, qu'il parle espéranto.
Ah, pas mal.
Le mec... Et en plus, le mec, genre, il a 68, je crois, et il me dit, ouais, là, j'ai trop hâte que le lockdown se soit fini parce que je voudrais aller faire 2000 km de vélo trip en Europe. Ok.
Eh ben, génial, ouais.
Enfin, tu vois, et ça, à Auroville, ben, t'as plein de mecs comme ça, et en fait, ça a quand même une petite dominante. Enfin, la catégorie senior est quand même assez développée.
C'est un peu les vieux 68ards qui ont un peu vieilli ici, quoi.
Il y a, parce que forcément, c'est eux qui ont créé l'endroit.
Bien sûr.
Mais ces mecs-là... Enfin, tu vois, Auroville, dans sa charte, dit qu'elle veut être un endroit de jeunesse éternelle. Mais moi, ici, j'ai rencontré des gars, mais j'étais là, mais moi, je veux être vieille comme eux, quoi. C'est des mecs, ils ont 80 piges, ils ont la patate, mais laisse tomber. Et c'est parce que ils sont drivés par une utopie, par leur vie a un sens. Ils sont toujours à 80 piges, ils sont en quête d'un truc dont on est hyper loin, tu vois. Mais on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est l'intention, c'est l'aspiration, et c'est ça qui fait vivre ces gens, et qui fait que c'est pas des petits vieux à la retraite et tout, en mode « Oh là là, je suis dans mon canapé avec mon arthrose et... Et ma vie n'a pas de sens et j'ai envie de rien foutre et je suis déprimée. » Eux, c'est des mecs, putain, mais ils sont incroyables. J'en ai un en particulier avec lequel je taffe parfois. Il a 80 ans déjà quand il m'a dit ça. Bon, après, il a une femme de 50 ans. Je pense
qu'il est quand même un peu... Ah, ça le garde un petit peu au frais, le mec. Le petit mec, dis donc. Alors.
Mais l'autre qui m'inspire vachement, qui a 80 et plus, bon, lui, il n'a pas de femme, mais... Tu vois, ces deux mecs-là, d'aspect, tu vois qu'ils sont tout fripés, qu'ils sont vieux, qu'ils ont eu une longue vie déjà, mais leur énergie, c'est l'énergie d'un mec qui a 38 ans, tu vois. Et donc, c'est ça que moi, je trouve génial, c'est que c'est vraiment des exemples de vie magnifiques qu'on trouve moins en France, tu vois. Ici, en fait, la magie de l'endroit, c'est que tu as une concentration...
Bien sûr, c'est ça en fait. C'est que voilà. En France, faut tomber sur le mec, sur la rencontre qui fait que un peu par hasard, parce que c'est noyé dans la densité de population. Alors que là, mais en fait, on les a tous mis dans un même panier. Donc, coup, t'as plus qu'à t'amuser pour tirer au sort celui qui va le plus, dont lequel tu vas le plus te nourrir en termes de connaissances, d'échanges, de spiritualité. Ouais, ça va être vraiment génial. Est-ce que pour finir ce podcast.
Ouais.
J'aime bien terminer
parce
par...
qu'il faut finir quand même.
Non mais j'adore. On sent que t'as eu du mal à te mettre dedans, mais que là c'est bon, les vannes sont ouvertes sur Auroville, les portes sont ouvertes quoi. Et je pense que tu vas en inspirer plus d'un à venir faire un petit tour, peut-être en premier en touriste,
ouais.
Puis après se dire, eh, faut que je revienne en ouais. bénévole. Puis après, on sait jamais, c'est pas la preuve. Hein. Toi, ça fait 3 ans que tu y es. J'aimerais savoir si, si je te file les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment que tu as vécu depuis ces 3 dernières années à Auroville, ce serait lequel?
Ça tombe très bien parce qu'on en a pas parlé. Le jour où je suis rentrée pour la première fois dans le matrimandir.
Qu'est-ce que le matrimandir?
Qu'est-ce que le matrimandir? Le matrimandir, c'est le temple.
Ouais.
Temple laïque, temple de méditation, qui est au centre d'Auroville.
Ouais.
Donc en fait, si tu tapes Auroville sur Google.
Ouais.
Ou Ecosia, je fais un coup de promo.
Très bien.
Ecosia ou Ecosia. Lilo ou Lilo, tu vas tomber sur des photos d'une grande boule dorée qui ressemble à une boule de golf. Ne dites pas que j'ai dit ça.
D'accord, on le dira pas.
On va me jeter des cailloux.
D'accord.
En fait, donc c'est notre temple de méditation. C'est le cœur d'Auroville et c'est aussi the place pour aller faire sa quête et sa découverte intérieure, son exploration intérieure en fait. Et donc cet endroit est très spécial. Déjà, c'est dans un grand parc qui est tout silencieux. Rien que tu rentres dedans, déjà tu sens la. C'est hyper paisible. C'est t'entends les oiseaux, le vent et tout, c'est... Déjà, rien que ça, c'est incroyable. Tu rentres à l'intérieur du matrimandir, donc t'as 4 entrées, et tu rentres ensuite dans la chambre intérieure. Donc tu passes par l'intérieur du matrimandir, qui est fait complètement de marbre, donc qui est blanc, et les parois à l'intérieur du matrimandir sont rougeâtres. Et en fait, je me suis aperçue un jour qu'en fait, on dirait, c'est comme si tu étais à l'intérieur de ton corps et que tu vois vers l'extérieur, et ben c'est rougeâtre comme ça, tu vois.
Ah.
Et en fait, après, tu as un escalier en colimaçon et tu rentres dans la chambre intérieure qui est l'endroit où il y a le plus de silence dans le monde entier, je pense. Il n'y a pas de bruit. Genre, on te dit même avant de rentrer que tu ne dois pas...
Tousser, ouais.
Voilà. Parce que ça résonne et du coup, ça dérange la méditation des autres. Et donc, c'est un endroit, c'est du pur silence, c'est tout blanc. Il y a de la moquette blanche par terre. Donc déjà, c'est tout doux et tout. T'as tes chaussettes blanches aussi, d'ailleurs, parce que vu que la terre est rouge à Auroville, pour garder le marbre blanc et la moquette blanche, voilà. Et donc, tu t'assois là et tu médites. Et la première fois que je suis rentrée dans cet endroit... Petit détail, au centre, il y a le symbole de Mère et Sri Aurobindo et dessus, il y a une énorme boule de cristal qui est posée dessus. Enfin, énorme, elle doit faire un demi-mètre de diamètre.
Ça commence à faire une sacrée boule.
Ouais. Et c'est une boule parfaite, parfaitement transparente de cristal. Et en fait, donc c'est pour moi, et je pense que pour beaucoup d'Auroviliens, c'est l'endroit le plus sacré d'Auroville. Et moi, la première fois que je suis rentrée là-dedans, eh ben, ça m'a vachement émue parce que ben, non seulement il y a un silence divin, on peut dire, et qui m'a beaucoup émue parce que quand tu es en silence, tu connectes avec toi-même et voilà, c'est émouvant. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement.
Attends, tu as fait monter le truc pour dire, bah, en fait, voilà, c'est émouvant. Attends, moi je suis dedans là, attends, tu te fous de moi. T'as découvert un truc, il s'est passé, t'as eu des clics.
Ben.
Tu savais que t'étais là pour une bonne raison. En fait, ça paraît. Je pense qu'il y a une évidence qui s'apparaît à toi. Tu t'es arrivé là, tu dis ok, je suis pas là par hasard. Il y a vraiment quelque chose. J'ai vraiment une mission à faire ici, en fait. C'est que, comme si tout paraissait évident, alors qu'avant, peut-être c'était encore dans une quête. Là, c'est. J'imagine.
Ouais.
Ce que je peux projeter par rapport à ce que tu m'as dit, c'est que tout devient limpide, mais dans ton esprit, en fait. Dire, ok, c'est bon, j'ai compris, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois faire. Il n'y a plus qu'à dérouler, quoi. Ok.
Et en plus de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai ressenti une connexion tellement forte avec moi-même que je me suis dit, Ah putain, après tout ça, bah tu vois,
Après tout ce
ah,
que j'ai
moi
traversé, ouais.
je m'étais perdue,
Ouais.
j'étais complètement en désharmonie, et je pense qu'à ce moment précis, j'ai senti une harmonie complète avec moi-même dans cette chambre, et ça m'a vachement émue parce que ben j'avais trouvé, tu vois.
Ce pourquoi t'étais parti et que t'avais d'abord été à Katmandou et
Ouais.
qui t'a amené jusque-là, en fait.
Ouais.
Ouais, c'est génial.
Ouais.
Dernière question.
C'est
Si
ça.
tu devais
Oui.
choisir une phrase aujourd'hui pour une phrase de ta création, une punchline ou une citation pour résumer ta vie ou ta façon de penser, ce serait laquelle?
J'ai envie de dire un mot, c'est être.
Ah, c'est joli ça. C'est joli.
Parce que dans la société occidentale, on est tellement dans le faire. Et dans la société orientale ou asiatique, bref, en Inde, de par les Indiens et aussi grâce à Auroville, j'ai appris à être. Et il n'y a pas de problème, c'est cool. Et il n'y a pas besoin de faire tout le temps. On est toujours dans cette quête de faire, faire, faire. Et ah, tu fais rien dans la vie, sérieux? Ah, t'es un bon à rien alors. Bah, en Inde, tu fais rien. Bah, ok.
Ouais, cool. Si t'as fait tes 5 heures par
Ouais.
jour, ça marche.
Mais voilà, et je trouve que ça apporte, ça déleste d'un poids
Je comprends.
que j'aimais pas du tout
En France.
en Occident.
Ouais.
Et ça a été une de mes sources de burn-out, tu vois, parce que je me souviens quand j'étais dans ma quête entrepreneuriale, que j'ai du coup laissé tomber. Eu burn-out, et que mes potes me disaient, mais du coup, t'en es où? Et j'étais là, ah, fallait que je leur dise où j'en étais, ce que j'étais en train de faire et tout, mais il n'y avait pas besoin, tu vois.
Je comprends.
Et du coup, enfin, cette conclusion de maintenant, je sais juste être, ben voilà, c'est mon point final.
Magnifique. Eh ben écoute, Laure, je te remercie mille fois d'avoir partagé ton expérience de vie de tes 3 dernières années et surtout ton changement de vie. T'as l'air bon, vous pouvez pas la voir, moi je la vois, mais elle est épanouie, elle est souriante, elle rayonne. Et c'est beau à voir, en fait. Je pense que chacun doit trouver aussi son cheminement, sa quête personnelle. Et je sens que tu l'as trouvé, tu es au bon endroit, à ta place, en train de faire ta bonne mission. Et je pense que c'est en inspirant. Tu sais que je suis allé une fois en Inde et dans ce coin-là, et je suis même pas allé à Auroville. Et je regrette maintenant, j'aurais bien. Tu
Ah,
vois? Non, mais ça me donne envie d'aller jeter
oui,
un oeil, tu vois? Ça me donne envie de jeter
yes,
un oeil. Et je
carrément.
pense que, tu sais, dans cette période de remise en question. Qui est forcé pour les gens, parce qu'ils se retrouvent maintenant tout seuls avec eux-mêmes, et qu'au bout d'un moment, quand t'as vraiment poncé YouTube, Instagram, Netflix, des fois même tu t'arrives à te retrouver un peu fifté face à toi-même, et ça fait du bien pour les gens. Il y en a plein qui sont partis en province, en France d'ailleurs, mais je pense qu'il y en a qui ont besoin d'aller plus loin dans cette recherche, un peu comme toi, qui est forcé par ce confinement, par cette situation, mais je pense que c'est très bien, et peut-être qu'ils iront venir te faire un coucou, et
Yes,
ben à
avec
Auroville.
plaisir.
D'ailleurs, si vous voulez contacter Laure, je mettrai tous les liens pour Auroville, pour pouvoir la contacter ou pas,
Ouais.
dans la description du podcast, évidemment. Internaute, avant de nous quitter, ça nous fait toujours plaisir, les petites dédicaces en story, en tweet ou peu importe, de savoir ce que tu as pensé du podcast, du témoignage ou de quelle façon tu as écouté ce podcast. Il y a beaucoup de choses en ce moment de témoignages qui me font vraiment marrer. Beaucoup de gens qui en fait font justement de la couture ou leur potager en ce moment en train d'écouter le podcast, je vois en story. Donc merci pour ces dédicaces, ça nous fait toujours plaisir. Et puis moi alors, ben, je vais juste te souhaiter plein de belles ondes et bonne chance pour la suite pour trouver l'harmonie là-bas.
Merci. Merci, merci.
Ciao alors.
Ciao.